lustré dont la plume est plus sombre, fait tantôt de l'ébène et tantôt de l'émail. Et leurs pattes, qui sont rouges parmi cette ombre, semblent, sur du velours, des branches de corail. Au bout du clos, bien loin, où vont paître les oies et vaguer les dindons noirs comme des huissiers. Oh, qui pourra chanter vos bonheurs, vos joies, rentiers, faiseurs de lard, philistins, épiciers. Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Son devoir, c'est-à-dire, elle blâmait les choses inutiles, car elle était d'esprit zélé. Et quand des papillons s'attardaient sur des roses, elle cassait la fleur et mangeait les trêlés. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que donc, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Elle ne sentit pas lui courir sous la plume de ces grands souffles fous qu'on a dans le sommeil pour aller voir la nuit, comment le ciel s'allume et mourir au matin sur le cœur du soleil. Et tous ont ainsi fait, vivre la même vie. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Aussi comme leur vie est douce, bonne et grasse, qu'ils sont patriarcaux, béats, vermillonnés, 5%, quel bonheur de dormir dans la crasse, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, n'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, posséder pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti, disant « Oh, les gens bienheureux !» Tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement, d'un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol, les pigeons, le bec droit, poussent un cri de flûte qui brise les soupirs de leur col redressé et saute dans le vide avec une culbute. Les dindons d'une voix tremblotante ont gloussé. Les poules picorant ont relevé la tête, le coq droit sur l'ergot, les deux ailes pendant, clignant de l'œil en l'air et secouant la crête. Vers les hauts pèlerins pousse un appel strident. Qu'est-ce que vous avez, bourgeois, soyez donc calme. Pourquoi les appeler, sauf ils n'entendront pas. Et d'ailleurs, eux qui vont vers le pays des palmes, crois-tu que ton fumier est pour eux des appâts? Regardez-les passer, eux ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre la chimère, plus d'un l'aile rompue et du sang plein les yeux mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, savent les aimer aussi bien que vous, mieux pour choyer cette femme et nourrir cette mère. Ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Ils sont maigres, meurtris, là, harassés, qu'importe. Là-haut chante pour eux un mystère profond à l'haleine du vent. Inconnus qui les portent, ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes, ils vont. La bise contre leur poitrail siffle avec rage, l'averse les inonde et pèse sur leur dos. Eux dévorent l'abîme et chevauchent l'orage. Ils vont loin de la terre, au-dessus des badauds. Ils vont par l'étendue ample, roi de l'espace. Là-bas, ils trouveront de l'amour, du nouveau. Là-bas, un bon soleil chauffera leur carcasse et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau. Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve. C'est l'horizon perdu par-delà les sommets. C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève où votre espoir banal n'abordera jamais. Regardez les vieux coques genoux édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
En liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Oyez, oyez, nous parlons aujourd'hui de la vie extraterrestre, car après un cheminement audacieux dans les sables de la planète rouge, Curiosity a plongé son bras de métal dans ce qui était autrefois un lac d'eau douce. En décembre 2013, la sonde américaine Curiosity a pour la toute première fois décelé à la surface de la planète Mars des dépôts géologiques établissant l'existence de ce qui fut autrefois une étendue d'eau douce à la surface martienne. Ce résultat a été publié dans la revue Science. Aujourd'hui, il ne reste plus d'eau sur la planète rouge, mais les expériences de forage et les analyses chimiques effectuées par le robot sur des roches qui sont assez denses laissent supposer que certaines conditions prébiotiques ont été réunies autrefois. Et donc peut-être que ce lac a pu abriter une faune microbienne il y a quelque 3,6 milliards d'années. En effet, les roches analysées contiennent des traces de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de soufre et, selon les scientifiques, procurerait des conditions idéales pour une vie microbienne et élémentaire. Bien qu'aucune forme de vie n'ait encore été décelée, le robot a effectué des forages dans des fragments de grès et y a constaté des traces d'éléments argileux, ce qui suggère une interaction avec de l'eau. C'est la première fois que nous trouvons sur Mars des roches qui apportent la preuve de l'existence ancienne de l'eau, nous disent-ils. Alors il faut se souvenir que cette histoire est une vieille histoire, puisque dès 1947 déjà, des scientifiques nous disaient qu'il y avait de l'eau sur Mars. Et puis on peut remonter encore beaucoup plus loin, puisque Lucrèce, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans De Natura Rerum, mentionne la possible existence d'êtres vivants extraterrestres. Il dit « Si la même force, la même nature subsiste pour pouvoir rassembler en tous les lieux ces éléments dans le même ordre qu'ils ont été rassemblés sur notre monde, il te faut avouer qu'il y a d'autres régions d'espace, d'autres terres que la nôtre, et des races d'hommes différentes, et d'autres espaces sauvages. » Bien sûr, il faudrait regarder derrière les étoiles pour savoir si le vivant est une exception terrestre ou bien un cas plus répandu. Mais il est vrai que le corollaire du fait que le vivant dérive naturellement de l'inerte, eh bien, c'est que des êtres vivants pourraient exister ailleurs. Cette musique originale de Mark Snow, qui est le thème de la série X-Files, nous rappelle que les extraterrestres n'ont pas toujours vu une bonne presse par chez nous. Il se peut en effet qu'on s'inquiète un tout petit peu de leur présence. Nous écoutions donc ce morceau particulier qui nous permettra de mieux entrer dans ce débat. Les extraterrestres sont-ils là? Existe-t-il une vie extraterrestre? Et peuvent-ils être des martiens?
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs, je suis Thierry Laudet et Christelle est avec moi pour cette émission.
Bonjour Thierry.
Bonjour Christelle. Nous avons parlé de Darwin, du territoire, des amours, de la biodiversité, du créationnisme, de l'adaptation, de la dominance. Et aujourd'hui, nous nous intéressons
des martiens
à la vie sur Mars ou ailleurs. Les extraterrestres sont-ils ou non des martiens?
Qui s'est dit éternel?
C'est quoi?
Ah ben, si on ne peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes.
Le prénom Didi.
J'ai vu une soucoupe volante.
Il passe derrière moi. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres derrière.
Voilà un petit extrait de la soupe aux choux.
La soupe aux choux, voilà. Et d'abord, pourquoi Mars? Pourquoi
alors,
Mars?
En effet, Mars est une planète qui est intéressante à plusieurs titres. Parce que c'est une hypothèse qui a été formulée en raison de la proximité de cette planète et de similitudes qu'elle possède avec la Terre. Alors c'est une vieille hypothèse puisque ça date maintenant des années 1900 même. Mais dès 1950, on a parlé d'une zone dite habitable, définie en quelque sorte entre Vénus et Mars par rapport au Soleil, car on considérait que la vie n'était possible que dans cette étroite fourchette de distance par rapport au Soleil pour que la chaleur et la lumière puisse faire son travail. Mmh. Notre étoile est située à environ 8 minutes lumière, et c'est à peu près la distance requise pour faire fonctionner le vivant.
Énorme.
Oui, alors cette distance entre Mars et la Terre, elle par contre est grande. Elle varie entre 56 millions et 400 millions de kilomètres, soit 0,37 unités astronomiques. Il faut des périodes d'opposition entre la Terre et Mars pour pouvoir atteindre Mars, et elles sont appelées fenêtres dans le langage des explorateurs. La durée de fenêtre de lancement est d'environ 26 mois, et donc ça veut dire que si on rate la dernière fusée vers Mars, il faut attendre 26 mois avant la prochaine navette. Aujourd'hui, Mars est plutôt une planète infernale. Pensez donc, les conditions moyennes, c'est d'environ moins 40 degrés. Mais la température peut descendre à moins 150 et les moins 70 sont assez fréquents.
Ouh, ça caille.
Voilà, et ce n'est pas vraiment des conditions idéales pour y découvrir ce que nous y cherchons. Alors, c'est la sonde Mariner 4 qui a été la première à effectuer un survol de Mars et qui a commencé à transmettre des images qui ont été assez époustouflantes pour révéler l'intérêt. Mais en même temps, les photos montraient une planète aride sans aucun signe de vie. Il y avait quand même des grandes zones de cratères avec une inactivité tectonique qui datait au moins de 4 millions d'années. La sonde a également constaté qu'il n'y avait pas de champ magnétique global, ce qui ne peut permettre de penser que la planète n'est pas protégée des rayons cosmiques, et donc le vivant y est vraiment très très difficile. La pression atmosphérique est relativement faible, 6 à peu près au lieu de 1013 hectopascales sur la planète Terre. Alors ça interdit l'existence d'eau liquide en surface. Or le problème c'est ça. C'est que la vie n'est pas possible sans eau liquide. Et cette idée avait déjà été formulée par Lamarck dès 1801. Alors, avant cette sonde, il y en a eu d'autres. Mais depuis Mariner 4, après cette sonde, il y en a eu d'autres. Mais depuis Mariner 4, la recherche de vie sur la planète Mars va se concentrer maintenant sur des organismes vivants relativement simples, puisqu'il n'y a pas vraiment de lieu disponible pour trouver des organismes multicellulaires. L'environnement est vraiment trop hostile. Alors on a envoyé par exemple la sonde Viking, et pendant un temps, la sonde Viking a cru déceler des traces organiques. Alors on a formulé évidemment tout de suite l'hypothèse que la vie existait. Sauf que l'analyse a révélé que ces expériences avaient été mal interprétées, et aujourd'hui les résultats de la mission Viking sont considérés par la grande majorité des experts au mieux comme non concluants, et au pire, ils sont plutôt considérés comme des résultats nuls.
Donc E.T. vient pas de Mars alors.
Voilà, c'est pas possible. Depuis une quinzaine d'années, il y a eu d'autres recherches. Il y a par exemple Mars Pathfinder qui a eu beaucoup de succès parce qu'il était commenté presque tous les jours. Puis Phoenix qui a eu beaucoup moins d'intérêt. Spirit, Opportunity après, dont on a pas mal parlé, et donc Curiosity. Tous ont cherché ou cherchent encore en zoomant sur les roches, en gratouillant tout tel et tel caillou, s'il existe ou non des indices d'une vie passée ou présente sur Mars.
Alors, il y a eu donc la mission Curiosity sur Mars.
Voilà, Curiosity, comme Curiosity.
Parce qu'on est tous curieux, donc.
Et on est tous curieux. Et donc,
on veut savoir, tout de suite.
Eh bien, notre curiosité ne va pas aller très loin, car en fait, les robots de la sonde ont juste permis de découvrir des traces infimes de matière dite organique. C'est une matière carbonée. Alors, cette matière carbonée peut avoir trois origines. Soit une origine indigène, ça veut dire que le sol contiendrait vraiment de la matière organique. Soit une matière organique extraterrestre véhiculée par des roches qui peuvent se promener d'un endroit à l'autre. Ça arrive assez souvent que des météorites avec des traces de matière organique arrivent par exemple sur la planète Terre.
Bah oui.
Soit une origine instrumentale, la matière organique identifiée venant de l'instrument d'analyse qui lui-même n'a pas bien travaillé ses blancs et ne sait pas trop s'il est capable de l'identifier.
Oh oui.
Il faut voir que ce sont des traces infimes et qui ont été mesurées. Et donc on ne peut pas du tout séparer ces trois possibilités. Dans l'état actuel des données, on ne peut pas trancher sur la présence ou l'absence de matière organique indigène. Toujours est-il que si c'était de la matière organique indigène, elle serait tellement rare que c'est vraiment très étonnant qu'elle ait pu résister pendant si longtemps. Donc on peut penser que de toute façon, ça date de très longtemps. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a aucune forme de vie qui a été trouvée et les analyses à distance de grand nombre d'échantillons montrent simplement qu'il y a des grains qui ont été un peu plus riches en fer ou en magnésium qui sont hydratés. En fait, en gros, ça veut dire qu'il y a eu de la rouille. Voilà, à peu près où on en est. Vous voyez, c'est très loin de la vie.
Depuis le temps, ça a rouillé. Hein.
Voilà, et en plus, c'est quand même c'est assez fréquent qu'on nous dise, à chaque fois qu'on envoie une sonde, ah, il s'est passé quelque chose, on a découvert de l'eau, on a découvert de la rouille, et à chaque fois, il faut bien penser qu'il s'agit de traces. Bref, ce faisceau de présomption aboutit finalement, en 2013, à cette annonce fracassante, fruit d'un labeur éreintant. Pendant plus d'un an, Mars a été habitable. Habitable, mais pas habité. Alors résultat, Curiosity fait plus que de la météo martienne, il nous disait par exemple que le 16 août 2012, eh bien, il y avait un petit peu de vent, que ça soufflait à peu près à 90 km/h, que la température était à moins 71 degrés et qu'on avait 8 hectopascales, donc quelque chose quand même de très très faible.
C'est vachement utile d'avoir la météo de Mars.
Voilà, c'est très pratique et puis surtout, ça nous aide beaucoup pour la suite des événements.
Alors, c'est donc scientifique la recherche d'êtres vivants extraterrestres.
Voilà, c'est pas une blague. C'est une partie de la biologie qui s'appelle l'exobiologie. Alors, c'est pas inintéressant l'exobiologie parce que ça pose le problème de ce que sont les êtres vivants et de ce que c'est que l'évolution biologique des formes de vie. Ça signifie en effet que si la vie a pu apparaître sur la planète Terre à partir de molécules organiques, il n'est pas illogique de présupposer que dans d'autres conditions, des êtres vivants pourraient aussi se former. Alors, il a fallu à peu près 1 milliard d'années à la vie pour apparaître. Les premiers êtres vivants vont rester simples pendant des milliards d'années. Il faut attendre 2,5 milliards d'années pour que des algues bleues commencent à fournir de l'oxygène. C'est cette création qui va faire d'oxygène qui va donner la couche d'ozone. Mmh. Cette couche va protéger les autres organismes vivants des radiations. Et donc, on va voir apparaître ensuite les formes de vie plus élaborées. Des organismes multicellulaires qui vont se reproduire. Et puis, au bout de 4 milliards d'années d'évolution, eh bien, on a des formes de vie comme la nôtre. Bref. Il faut beaucoup de temps pour que la vie apparaisse, mais en revanche, si ces conditions sont réunies, y a-t-il des raisons pour supposer que finalement ça ne se fasse pas ? Et finalement, au lieu de chercher des aliens reptiliens sur Mars, la question scientifique qui se pose, qui est une vraie question, c'est finalement de savoir comment est-ce que la vie peut apparaître et comment est-ce qu'elle peut se maintenir.
En descendant de la fusée, je t'ai trouvé presque aussitôt, et je suis resté médusé. Tu m'avais pris comme au lasso, je t'ai suivi sur la pelouse, tes tentacules autour du cou, et avec tes petites ventouses, tu m'as fait des baisers partout. Les musiciens soufflaient sans trêve dans leurs bazouks et leurs strapons, et cette musique de rêve me perforait jusqu'au trognon. J'évoquais des orgies superbes, des bacchanales dans les canaux, et pendant qu'on s'aimait sur l'herbe, je fredonnais ces quelques mots. C'est la java martienne, la java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes trois grands yeux.
Ça marche toujours,
ça marche comme ça.
Oui, ça tourne à tour de bras.
La java d'amour, martiale java, que j'ai dansé dans tes bras.
C'est la java martienne, la java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. On s'est aimé comme dans un rêve, mais c'est là j'ai dû repartir. Et nos amours ont été brefs, chérie, je voudrais revenir. Ton nom me hantera sans cesse, pendant les longues nuits d'été. Ton nom doux comme une caresse,
porfiche tout mic d'habit crouté.
Un jour je monterai peut-être chercher le fruit de nos amours, cet enfant bâti comme un être qui naquit au bout de 8 jours. En voyant son père amarcir, le chéri l'aimera beaucoup et prendra pour courir lui dire ses 13 jambes à ses 2 coups. C'est la java martienne, la java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes 3 grands yeux.
Ça marche toujours,
ça marche comme ça.
Oui, ça tourne à tour de bras.
La java d'amour, martiale java, que j'y danse dans tes bras.
C'est la java martienne, la java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes 3 grands yeux. Pour retrouver mon rêve, ma martienne aux 3 yeux bleus. Allons-y, Mars ou crève, je remonterai aux cieux.
Oui, il faut aller bien loin pour la java martienne. C'était les 3 Horaces sur une chanson de Boris Vian.
Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité, et toujours sans savoir s'il existe une vie extraterrestre. Alors, les extraterrestres, est-ce qu'ils sont des micro-bacilles mous et allongés ? Ils ressemblent pas à E.T. alors ? Je suis déçue, parce que je le trouvais très mignon, E.T. pourtant.
Ouais, je crains qu'il faille gratter encore quelques cailloux, et on a beau en gratter, on ne trouve pas grand-chose. En effet, c'est assez décevant de voir comment la planète Mars est si peu accueillante. Alors je sais qu'il y a eu une problématique intéressante il y a quelques temps, puisque des gens ont proposé d'envoyer des humains comme ça, dans un grand voyage sur Mars, pour essayer de construire une petite colonie. Bon, c'est évidemment une stupidité tout à fait étonnante. Je ne sais pas qui d'entre nous accepterait de vivre comme ça plusieurs années, 3 années de rang par exemple, dans une température qui est 2 fois plus froide que ce qu'on trouve au pôle sud. Et en plus avec des vents et enfin bon, des tas de choses pas possibles. Toujours est-il qu'il suffit de très peu de choses pour que la polémique autour de la vie sur Mars reparte de plus belle. Puisque les véhicules envoyés sur la planète rouge n'ont pas réussi à fournir d'indications, il y a d'autres méthodes qui ont permis d'évaluer des possibilités, notamment en étudiant les météorites martiennes. Voilà. Alors les météorites, ce sont des cailloux qui tombent. Certains d'entre eux sont tombés il y a fort longtemps, mais on sait qu'ils proviennent de Mars à cause de leur composition particulière. Des chercheurs américains ont observé qu'il existait ce qu'on appelle des sphérules, c'est-à-dire des petits corps un peu sphériques, à la surface de la météorite qui était vieille de plus de 10 000 ans, et qu'on appelle ALH84001. Voilà, c'est un joli nom pour trouver quelque chose. Alors c'est un tout petit caillou, il ne faut pas non plus le prendre pour quelque chose d'énorme. Et ces structures ressemblent plutôt à des moulages qui pourraient être de la fossilisation de bactéries terrestres ou d'appendices, voire de sous-produits de ces bactéries qu'on pourrait baptiser des substances extracellulaires polymériques. Ouais. Alors c'est en 1996 que les chercheurs ont assimilé ces structures à des bactéries. Alors la publication était relativement célèbre, on dit que ça montre qu'il y a des possibilités qu'il s'agisse de formes de vie ressemblant à des bactéries qui auraient été fossilisées, mais il semble que cette conclusion ait été faite un peu à la hâte, puisque ça s'est avéré en fait inexact in fine. Alors certes, ces structures ont sur les bords des globules de carbonate, et puis il y a une altération avec de l'eau qui pourrait correspondre à quelque chose de préterrestre, mais en fait tout ça peut parfaitement être formé par le grand voyage qu'a fait cette météorite avant d'arriver chez nous. Et en plus, la taille des objets est vraiment trop petite pour qu'on puisse l'assimiler à des bactéries. Alors on a dit que c'était compatible avec l'existence de nanobactéries. Alors le problème, c'est que des nanobactéries fossilisées, il n'y a vraiment que là qu'on en a trouvé, puisque l'existence même de nanobactéries est pour l'instant totalement controversée. C'est plutôt dans le sens inverse qu'on va, puisqu'on a découvert plutôt des grands virus, des virus géants, et donc plus que des virus géants que des petites bactéries. Alors c'est pas fini. Il y a d'autres débats toujours sur d'autres météorites. Par exemple, il y a la météorite Yamamoto 000593. Alors elle est beaucoup plus grosse, ça fait 13 kilos à peu près, et elle est tombée en Antarctique il y a plus de 10 000 ans également. Voilà, oui, c'est pas récent du tout, mais en Antarctique, les choses se conservent.
C'est vrai.
Voilà. Alors les scientifiques savent que cette météorite provenait de Mars, car elle contient des pores qui indiquent en fait que le gaz qui est présent dans la météorite a bien la même composition chimique de l'atmosphère martienne. Donc tout ça, on en a travaillé et on a publié. Et donc, dans une publication de Astrobiologie, on apprend que l'équipe de chercheurs qui ont analysé cette météorite ont encore identifié en son cœur, figurez-vous, des choses. Alors là, on n'est plus dans des tubules, on est dans des micro-tunnels. Et donc, dans ces micro-tunnels, il y aurait des billes microscopiques qu'on appelle sphérules. Et ces sphérules seraient riches en carbone.
Et à l'analyse, la NASA, donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle refute les conclusions de cette publication comment elle fait ?
Les conclusions de cette publication ont été largement tirées par les cheveux. En fait, la NASA et d'autres scientifiques disent qu'on ne peut pas exclure, évidemment, qu'il y ait des zones riches en carbone. Mais en tout cas, ces caractéristiques ne prouvent absolument pas que nous sommes en présence d'un mécanisme vivant. Tout ça peut parfaitement être le produit de mécanismes dits abiotiques. En fait, il faut bien comprendre que la revue Astrobiologie est assez célèbre pour produire des publications de ce genre qui sont souvent remises en cause, car ils sont souvent pas très 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 sérieux. Il existe des tas de mécanismes qui sont susceptibles de causer une telle altération et non pas seulement celui de la vie microbienne. À dire vrai, on connaît une centaine de réactions qui sont susceptibles de fabriquer ces sphérules géologiques dans la roche. Et dans ces centaines de réactions, il y en a une qui serait possiblement microbienne. Donc on voit que la chance est en fait très très faible d'attribuer à ces petites choses cela. Ceci dit, il faut bien reconnaître qu'il y a des similitudes de texture et de fonction dans des échantillons terrestres qui ont été interprétés comme biologiques. Et donc, ça implique, en effet, que ces caractéristiques puissent exister aussi comme forme biotique dans la roche martienne. Mais enfin, c'est une probabilité qui reste relativement très faible. En fait, je pense qu'il faudrait arrêter et probablement réfléchir à autre chose plutôt que de spéculer toujours scientifiquement sur des petites tubules inscrites dans des petits tunnels qui sont des micro-éléments et qui pourraient indiquer des microsphères de vie. Si la vie avait été présente sur Mars, elle nous enverrait peut-être des choses un peu plus grandes. En tout cas, au minimum, même s'il y a eu de la vie, il faut admettre que c'est quand même très rare et que surtout, pour l'instant, personne n'est capable de dire si ces structures sont vraiment biologiques. Alors on peut répondre, personne n'est non plus capable de nous dire que ces structures ne le sont pas. Certes, mais je vous répète, les probabilités ne vont pas dans ce sens-là. En fait, tout ça nous indique que c'est pas très très facile de découvrir quelque chose. Un joli foutoir en quelque sorte.
Complètement.
Et à faire des choses à moitié, on la traverse à peine et l'on voit qu'on y passait à côté. Vous avez voulu pas longue et à faire les choses à moitié, on la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Auriez-vous bien voulu vouloir, ou avez-vous vraiment voulu? N'avez-vous rien voulu savoir, ou n'avez-vous vraiment rien su? Avez-vous cru devoir pouvoir, et n'avez-vous vraiment rien pu? Vous avez bien cru vous y croire, mais on vous a bouffé tout cru. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Sans être face à son devoir, on ne peut pas avoir son dû. Quand monte-t-elle a cru des déboires, on pensait ne voir qu'un début. Moi j'aurais bien voulu m'asseoir, mais pourquoi ce coup de massue? On se retrouve à l'abattoir sans jamais s'être assez battu. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Si l'on restait dans la passoire, c'est un peu ça qu'on n'a pas su. À balancer au dévaloir, ses désirs on les dévalue. Il y a des filles, il y a des soirs, dont les défis nous ont déçus. Je vous laisse un joli foutoir, mais tout était déjà foutu. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Savez-vous, n'est pas long et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Vouloir passer à l'été noir, les espoirs quand ils sont tenus. On appelle ça jouer pour voir et s'en retrouver dépourvu. Quand on vit dans un étouffoir, le problème est assez touffu. Le tunnel vous semble être noir quand le bonheur était tout nu. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire des choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire des choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Nous chantons avec les sanglots quelques vieilles chansons qui sanglent dans l'armure de votre mémoire, dans l'armoire de notre âme émue. Si nous pouvions vous émouvoir, ça nous en foutrait plein la vue. Si c'est la fin du répertoire, c'est qu'hélas, les repères tuent. La vie, savez-vous, n'est pas longue, et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté.
Alors, c'est une musique de Cercle Clos et qui s'appelle Joli Foutoir et qui est un Suisse, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, si c'est pas si c'est pas des microbes, si c'est pas E.T., ah, c'est quoi les extraterrestres ? C'est des méduses ?
Oui, en fait, sur Mars, il faut bien comprendre que c'est fini. On ne trouvera plus rien. Il faut donc aller beaucoup plus loin que la planète Mars, solitaire et glacée, sans rouge et sans eau, puisqu'en fait, elle est beaucoup plus jaune que ce qu'on peut dire. Il faut donc comprendre que découvrir de la vie extraterrestre n'est pas une mince affaire et qu'on a beau chercher, pour le moment, on ne trouve rien. Ceci dit, on restait dans des données qui supposaient évidemment une proximité par rapport à la planète Terre. Or, on a découvert maintenant qu'il pouvait exister une biologie sans soleil. Et cette biologie sans soleil va livrer une nouvelle donne. Mmh. C'est la découverte des archées. Alors, les archées, ce sont des bactéries dites extrémophiles. Ce sont de toutes petites formes de vie bactérienne qui sont connues sous le nom scientifique de chémolithoautotrophes, qui se développent sur Terre et vont coloniser des grottes ou alors des cheminées hydrothermales dans les océans. Ainsi, en 1977, pendant une plongée d'exploration dans le rift des Galapagos, pour la première fois, des scientifiques ont découvert des colonies de grands vers tubulaires géants, les Riftia. Il y avait également des moules, des crustacés, tout ça concentré autour de charpentes volcaniques sous-marines qu'on appelle les fumeurs noirs.
Donc, ce sont des volcans sous-marins, alors ?
Voilà, ce sont des grandes structures volcaniques, mais en fait, qui sont relativement petites. Alors, en revanche, les conditions n'y sont pas très bonnes. On y voit surtout des sulfures, des gaz qui sont tout à fait toxiques. Mais l'analyse révèle qu'il existe toute une faune qui est capable de former un réseau alimentaire complet autour de ces fumeurs noires. Et ce réseau alimentaire est totalement autonome du Soleil. Au lieu des plantes, toute la base de ce réseau, nous on dit des réseaux trophiques, est constituée par une forme de bactéries qui trouvent leur énergie dans l'oxydation de ces produits chimiques tels que l'hydrogène, l'hydrogène sulfuré. Ce sont ces fameuses bactéries dites extrémophiles ou archées qui vont révolutionner l'organisation connue des êtres vivants.
Bah, du coup, la notion de zone habitable, ça ne veut plus rien dire alors ?
Ah bah tout à fait, puisque la notion de zone habitable, c'était cette zone qui était conforme à la distance du Soleil. Or, là, ça n'a plus de sens biologique, puisque si le Soleil n'est pas le seul à permettre d'activer la matière vivante, évidemment, ça veut dire que la matière vivante peut procéder d'une autre manière.
Ah, ça change tout.
Ça change tout. Alors, il faut bien comprendre qu'il s'agit là donc d'une chimiosynthèse et que ça va vraiment révolutionner la biologie. La découverte des archées. Alors, les archées, ce sont un peu comme des bactéries. Elles sont un peu différentes, un peu plus grosses. Elles ont un semblant de noyau, mais c'est pas vraiment un noyau. Elles ont des structures qui ressemblent aux bactéries et qui ressemblent à notre structure à nous. Nous, on nous dit que nous sommes des êtres eucaryotes, hein, des cellules avec des noyaux. Mais ça reste quand même tout petit. Et même si cette vie n'a pas besoin du soleil, elle a besoin de l'eau. Et elle a besoin d'une source d'énergie thermique, plus d'une source d'énergie chimique, pour pouvoir se développer. Alors ça ouvre une voie immense à l'exobiologie, en multipliant maintenant les possibilités d'habitat extraterrestre.
Et sous la glace ? Donc il y a des extraterrestres sous la glace ?
Alors c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en effet, l'existence des fumeurs noires est quand même relativement liée à la présence des océans, à une planète qui va être tellurique, et à une planète qui va avoir des zones tectoniques. Or, beaucoup de planètes n'ont pas une telle activité tectonique. En revanche, beaucoup de planètes vivent dans un froid glacial, et donc, s'il existe des êtres vivants sous la glace, on va évidemment, du coup, pouvoir encore multiplier les possibilités. Mmh. Alors, on a découvert en 2010 une espèce d'anémone de mer qui vivait sous la glace de l'Antarctique. C'est une espèce inconnue qui s'appelle Edwardsiella andriella, mais il y a eu d'autres anémones qui avaient été découvertes avant en Antarctique. En revanche, ce qui est intéressant dans cette anémone-là, c'est que c'est la première fois que des scientifiques en trouvent qui vivent à plusieurs dizaines de mètres sous la glace. Ce qui suggère, ça ne le prouve pas, hein, mais ça le suggère, qu'il peut exister un système autonome du Soleil sous la glace.
Il y en a toujours qui ne font jamais comme les autres.
Voilà, et en plus, elles sont assez différentes des autres, puisque ces anémones contractées ne mesurent que 2 cm de long. Elles sont un peu plus étendues, un peu plus grandes lorsqu'elles sont étendues. Elles ont 20 à 24 tentacules, comme d'autres anémones, et elles sont connues depuis des milliards d'années, enfin, on suppose que, depuis des milliers d'années, pardon, on suppose qu'elles sont relativement anciennes. Outre ces anémones, on a aussi observé un écosystème totalement inconnu, alors des vers, des vers dits polychètes, hein, ce sont des vers un peu comme le lombric, mais qui sont marins, des amphipodes, ce sont des petits crustacés marins, et une petite animal bizarre qu'on a appelé l'ergrol, c'est en fait encore un petit arthropode d'une dizaine de centimètres, et à peu près 2 centimètres de large, qui semblait nager en utilisant des appendices aux extrémités de son corps. Mmh. Sauf que en dépit de tout ça, en dépit de leur forme, en dépit du fait qu'ils soient très loin dans, sous la glace, eh bien, en dépit de leur couleur, même luminescente, ces espèces se rangent toutefois dans une organisation zoologique normale de la faune terrestre. Ce ne sont pas du tout des êtres vivants extraordinaires. Ce sont des méduses, des crustacés, des animaux qui ont dérivé d'êtres vivants qui existent déjà par ailleurs. Donc ce sont plutôt des êtres vivants qui sont adaptés à des conditions de vie particulières. Ce sont des cnidaires, des vers marins, des arthropodes, apparentés aux formes qui vivent en surface et qui se sont adaptés.
Si on les mettait sur Mars, tu crois qu'elles s'adapteraient ?
Seraient évidemment pas capables de survivre à des conditions comme cela. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dépit du fait extraordinaire que la vie, que des êtres vivants puissent s'adapter à des conditions relativement difficiles, on reste de toute façon dans des structures qui sont quand même apparentées à des structures de vie qui sont dérivantes des formes de surface. Il ne s'agit pas de formes nouvelles, il s'agit de formes qui ont dérivé depuis des animaux qui existent depuis fort longtemps. Alors cette faune marine, elle peut éventuellement évidemment donner un aperçu de ce qui pourrait se passer sur des lunes glacées, comme par exemple Europe, qui est une des lunes glacées de Jupiter, mais quand même c'est relativement éloigné de ce qu'on pourrait supposer être des formes de vie, puisque je vous rappelle, celles-là ne font que dériver de formes de vie terrestre, et non pas de formes de vie extraordinairement trouvées d'ailleurs.
Bref, on trouve rien quoi, on en a marre quoi, comme les berruriers noirs par exemple.
Voilà bien une musique qui déménageait. Eh bien, c'était les Berrurés Noirs qui en avaient marre qu'on ne trouve rien comme être extraterrestre.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Science en Liberté, une émission faite pour se demander ce qu'on fout sur Terre, bordel. Alors, les extraterrestres sont-ils violets et luminescents?
Alors, peut-être. Mais bon, il faut bien reconnaître que notre périple pour l'instant ne nous permet pas de trouver grand-chose. Donc, pour résumer, on a maintenant à peu près la certitude qu'il n'y a pas grand-chose sur Mars. Ça fait des années qu'on nous le dit, que Mars a peut-être de l'eau, peut-être de l'eau, peut-être de l'eau, peut-être de l'eau. Et on
peut-être
sait maintenant...
de l'eau.
Voilà, qu'elle a peut-être eu de l'eau, ce qui n'est pas tout à fait pareil, qu'elle a peut-être eu de l'eau, et que c'est très, et que, bah, on continue à la chercher, en plus. Ensuite, on nous a commencé à nous dire qu'en effet, il fallait qu'on cherche, dans les météorites, parce que là, il y avait des petites traces de petites bactéries, mais en fait, pour l'instant, ce sont des petites traces de rien du tout, on sait pas trop de quoi il en est, voilà. Et, en tout cas, si on se tient à toutes ces choses-là, on peut dire que la vie nous paraît bien rare.
Et alors, sous la glace de d'autres planètes ?
Alors oui, en effet, nous en étions restés là. On peut supposer que la vie est capable de vivre dans des conditions extrêmes, puisqu'il existe des êtres vivants qui en sont capables. N'oublions pas, la plupart des êtres vivants qui en sont capables dérivent, malgré tout, d'êtres vivants qui n'en sont pas capables, et qui se sont par la suite adaptés à ces conditions particulières. Mais, la surface d'une des lunes de Jupiter qu'on appelle Europe, est une surface craquelée, formée d'une espèce de grosse couche de glace qui laisse augurer qu'il y aurait de la présence d'eau, peut-être sous forme liquide, à l'intérieur d'Europe. Alors ça, c'est pas très très facile de le calculer, mais comme l'eau est le critère primordial, s'il y a de l'eau, pourquoi pas supposer qu'éventuellement des conditions chimiques sont réunies pour arriver à la vie. Europe, à part la Terre, est la seule à posséder apparemment un océan liquide, si c'est de l'eau, hein. Un océan liquide en contact avec des roches, ce qui évidemment, ce sont des silicates, donc ça en fait un très bon candidat à la présence d'un système de vie dans notre système solaire.
Donc la vie pourra exister dans l'océan sous la glace d'Europe ?
Voilà, donc on imagine Europe, c'est une sorte de grosse planète qui contient de l'eau, et sur l'eau, il y aurait une grosse couche de glace de plusieurs kilomètres. Alors évidemment, subsistant dans un environnement qui ressemble un petit peu aux environnements terrestres comme ceux dont on a parlé avec les fumeurs noirs ou encore sous la glace de l'Antarctique du lac Vostok par exemple, pourraient peut-être exister des formes de vie. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne voit pas trop d'où elles pourraient dériver. Il faut donc qu'elles se soient qu'elles aient elles-mêmes évolué à partir de formes de vie qui étaient déjà extrêmes, ce qui est quand même assez difficile. Le bon côté des choses, c'est qu'une grande partie de cette vie serait à l'abri de tous ces problèmes de rayonnement cosmique. Mais pour l'instant, on n'a absolument aucune preuve qu'il existe de la vie sur Europe.
Et sur d'autres planètes, alors ?
Alors oui, il y a d'autres planètes qui sont candidates, il y en a quand même très très peu. En fait, le seul autre candidat, c'est un satellite de Saturne qui s'appelle Titan. Voilà. C'est le plus gros satellite du système solaire, enfin l'un des plus gros satellites du système solaire, parce qu'il y en a un autre qui est un peu plus gros, mais c'est pas grave. Et il est connu pour posséder une atmosphère, et il a une couverture nuageuse qui est un peu plus dense que la Terre et un peu plus dense que Mars.
Que Mars, oui.
Ça a été découvert, le Titan a été découvert il y a très longtemps, parce que c'était une grosse planète, en 1655 en fait, par Huygens, qui s'est intéressé à cette planète parce qu'elle tournait en fait autour de Saturne. Mais ça n'a commencé vraiment à intriguer les astronomes qu'au moment où la sonde Voyager est passée à proximité dans les années 1980. Car voilà que sur cette Lune, il y avait une atmosphère, et que cette atmosphère comprenait 90% d'azote, 3 à 10% de méthane, on ne sait pas trop, 0,2% d'hydrogène, et des traces d'hydrocarbures comme l'éthane, l'acétylène, l'éthylène et le méthyle. Jusqu'ici, rien que du commun, même si les proportions sont intéressantes. Mais c'est surtout qu'il existait aussi des composés organiques comme l'acide cyanhydrique, le cyanogène ou encore le cyanoacétylène. Alors, ce sont ces composés organiques qui ont soulevé les plus grands intérêts et les espoirs les plus fous. En effet, parce que ces premiers éléments s'apparentent à des choses qu'on baptise souvent les premières briques qui vont permettre la fabrication des premiers polymères qui sont eux-mêmes les bases de la structure de l'ADN. On est quand même dans quelque chose de très primitif, mais c'est pas exclu que des organismes vivants aient pu être capables de se développer sur Titan.
Alors, on dit que l'atmosphère de Titan serait donc voisine de celle de la Terre.
Alors, elle est voisine, soi-disant, de celle de la Terre, durerait 4 milliards d'années, et elle serait susceptible de développer cette chimie prébiotique. La NASA a consacré une mission spatiale. On a envoyé l'orbiteur Cassini, qui a été envoyé en direction de Saturne en 1997. Et le module Huygens est arrivé, alors c'est un des modules qui était sur l'orbiteur, est arrivé sur Titan le 14 janvier 2005. Donc les analyses de données ont été faites. Dans un premier temps, d'abord, la sonde Huygens a mis pas mal de temps à se mettre en place. Puis, les données sont arrivées. Et ces données de Cassini-Huygens ont révélé l'existence d'oxygène.
Waouh !
Alors voilà, on a sauté tout de suite au ciel, de l'oxygène, il y avait donc de la vie. D'abord, il faut rappeler que cet oxygène est tout petit, il y en a très peu. Mmh. Ensuite, cet oxygène, il se crée en dehors de tout cycle biologique, par simple réaction chimique entre des particules gelées et le rayonnement solaire, même si ici, il est très loin. Donc, il y a une chimie organique qui se passe sur Titan, mais c'est quand même une ineptie de présenter Titan comme une analogue de la Terre il y aurait 4 milliards d'années. La Terre n'a en fait jamais été comme Titan. Jamais elle a connu une période aussi froide qui dure depuis des milliards d'années. Jamais son atmosphère primitive a été aussi peu fournie en éléments chimiques. Et le gaz dominant qui était le gaz carbonique sur Mars et sur Vénus, sur Titan, c'est l'azote. Et en gros, avec du méthane, et c'est ça qui a laissé un peu entendre qu'il pourrait éventuellement un jour où se passer quelque chose. Mais enfin, faut pas rêver, il ne se passe pour l'instant absolument rien sur Titan. À part peut-être des cavaliers fantômes.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-oh! Faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As a rider sloped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-oh!
C'était Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky.
Alors, maintenant, la recherche du mois. C'est le ballon sonde. Ce mois-ci, nous allons nous attarder sur des travaux de recherche concernant une équipe de Britanniques emmenée par Milton Wainwright. Je ne sais pas si je prononce bien son nom.
C'est pas grave.
Du département de biologie et mononucléaire de l'université de Sheffield. Il a publié donc dans le journal Cosmology, une étude relatant une curieuse découverte effectuée dans la stratosphère. Donc, le 31 juillet, la date donc est importante, ces recherches ont lâché un ballon sonde au-dessus de l'Angleterre. Il était équipé d'un dispositif simple, hein, un tiroir télécommandé dont l'ouverture a été déclenchée lorsque le ballon a atteint 22 km d'altitude. Donc on considère que la biosphère monte jusqu'à 80 km. Donc la boîte est restée ouverte pendant plus d'un quart d'heure, alors que l'ascension se poursuivait. Donc elle a été refermée à 27 km d'altitude. Puis le dispositif expérimental a été décroché du ballon et est tranquillement redescendu, accroché à un parachute comme Mary Poppins sur son parapluie. Et là, les scientifiques ont eu la surprise de découvrir une minuscule structure. Cela ressemble fort à un squelette de diatomée. Ces algues unicellulaires qui s'entourent d'une petite boîte de silice, le frustule. Comment cette chose a-t-elle bien pu se trouver à 25 km d'altitude ?
C'est une vraie question.
Ils se demandent bien, puisqu'ils excluent leur contamination lors de leur dispositif expérimental. Donc deux solutions s'offrent à eux, donc c'est ce qu'ils expliquent, ou bien ce morceau de frustule de seulement quelques micromètres de long appartient à une micro-terrestre et il vient d'en bas, ou bien il provient de l'espace.
Voilà.
Et il s'agit d'une preuve de vie extraterrestre, youpi. Puisqu'ils sont certains qu'aucune algue ne peut remonter depuis la mer, les scientifiques ont donc conclu qu'ils venaient de l'espace. Ainsi, voilà la preuve d'une vie extraterrestre. C'est fort, hein?
Alors, il faut rappeler que ça a été publié dans Journal of Cosmology, qui est un journal qui est assez habitué à ce genre de petites choses. D'abord, on va regarder tout un ensemble de choses intéressantes. Rappelons que le ballon est monté à 27 km. Que 27 km de la Terre, c'est quand même pas très loin pour capter des êtres extraterrestres. Surtout si on pense déjà que Mars est à 400 millions de kilomètres de la planète. Donc, ça donne une petite.
Oui, c'est une grande différence, voilà. Quand même.
Ensuite, nos chercheurs disent que ce n'est pas possible, évidemment, qu'une algue soit venue du bas vers le haut. Ils oublient sans doute qu'il existe quelques petites choses intéressantes, comme par exemple les volcans ou d'autres éléments qui sont capables d'emmener dans la stratosphère.
On a admiré Mary Poppins qui emmène dans son parapluie des choses, non ?
Tout à fait. Bon. En plus, il faut rappeler que c'est une microstructure, mais ils en ont trouvé qu'une et elle est minuscule. Bref,
alors,
on peut dire que tout ça, c'est quand même bizarre.
C'est mon petit doigt, là, et pas raide,
voilà.
Qui me dit que c'est peut-être un peu trop.
Voilà, c'est vraiment un peu trop. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même la chronologie de l'étude. Tu as dit, Christelle, que le vol du ballon sonde a eu lieu le 31 juillet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'étude a été publiée, elle, dans la revue, le 9 août. Si vous voulez, on peut dire qu'on est là très proche du record du monde exceptionnel de l'expérience la plus rapidement analysée, retranscrite, envoyée et acceptée.
Voilà.
Si vous voulez, moi en général, quand je fais une quand je fais une publication scientifique, il faut en général un peu plus de 6 mois pour que ça passe. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très intéressant. Il faut aussi se rappeler que le Journal of Cosmology n'est pas vraiment une grande revue scientifique très sérieuse, puisque c'est plutôt un repère de chercheurs qui sont partis en croisade depuis très longtemps pour une théorie qui est celle de la panspermie et qui nous disent que la vie vient d'ailleurs et vient forcément de l'espace.
C'est David Vincent qui l'a fait. Donc,
c'est un peu ça. Il faut reconnaître que si la vie vient d'ailleurs, ce qui n'est pas une impossibilité théorique, il faut quand même comprendre qu'on n'a pas tellement d'explications sur comment elle aurait pu se former. De toute façon, c'est jamais que repousser le problème plus loin. Alors, le meneur de ce mouvement s'appelle Chandra Wickmashing, qui est de l'université de Buckingham et qui, depuis quelques années, en effet, se pose toujours cette même question. Peut-il y avoir une vie extraterrestre? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on envoie un ballon sonde à 22 km. Bon, 22 km, je vous rappelle que ici l'émission, nous, on l'a fait depuis l'Anjou. C'est-à-dire qu'on est un peu plus qu'à 22 km de Paris. Et que, voilà, et que une petite poussière de silice est apparue à 22 km de là en montant dans ce qu'ils appellent la stratosphère. Bref, on n'est quand même pas dans le sérieux absolu et c'est une des preuves étonnantes de l'existence d'extraterrestres. Mais il y en a parfois d'autres preuves déroutantes un peu de la vie extraterrestre.
Mobilette, je prends ma clé, j'ouvre ma porte, et au moment que je prends ma mobilette pour la rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que je vois, cet engin-là, rouge,
pas rouge,
cylindrique, bon comme ça, hein. au moins 4 mètres de haut, vous voyez ces arbres-là, ben, ça dépassait presque les arbres-là.
Il était déjà sur place.
Il était sur place quand je suis arrivé, hein. Je l'ai pas vu atterrir, j'ai vu partir, mais je l'ai pas vu atterrir, hein. Ils l'ont aperçu en Belgique et puis aussi c'était dans Vert, là. C'est la direction, vous voyez, ça fait pas la direction, hein.
Ça ne faisait pas de bruit?
Pas de bruit, aucun bruit. Et ça n'éclairait pas les champs, hein. Et c'est lui personnellement qui était rouge intérieurement. Mais plus on ressent, là, vous savez, comme le coucher du soleil, vous voyez, un rouge comme ça. Un rouge pénétrant, comme ça, vous voyez.
Et vous avez eu combien de temps pour le voir?
Bon, à peu près un quart d'heure.
Mais vous êtes allé voir de plus près ou vous êtes resté?
Ah non, j'avais trop peur, moi, hein. Et là. Ah non, moi j'avais peur. Hein. Ah non, ça y est, rien.
Voilà, donc on a en effet d'autres preuves.
C'était à la sortie du bar, hein, c'est ça?
Sans doute. Il parle de rouge, hein, pas de rose, mais quand même, c'est pas un éléphant qu'il a vu. N'empêche que c'est quand même très intéressant parce que ce genre de témoignage est assez commun. Et ce qu'il faut bien comprendre, évidemment, c'est que ce genre de témoignage commun va quand même très 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 loin. Là, on n'est plus dans la petite découverte de tout à l'heure. Tiens, un petit morceau de silice d'une micro-algue peut-être terrestre ressemblant à une diatomée. Non, là, on est carrément dans la grande civilisation extraterrestre capable de nous faire voir des choses et vertes et pas mûres. Le thème de l'effet papillon d'un film de 2004. La musique est de Michael Subby.
Vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiquer du bulde, science en liberté. Donc les extraterrestres, est-ce qu'ils sont des micro-bactéries aplaties par la gravité ou d'une planète géante, ou au contraire, des montgolfières volantes sur une planète d'eau. Car l'univers est si immense qu'il est parfaitement concevable que des êtres vivants soient apparus quelque part.
Ah, d'autant que notre camarade de tout à l'heure, dont on a fait écouter le transfert, nous a dit qu'il en avait vu.
Bon, ouais.
Reprenons tout de même les choses avec un peu plus d'attrait scientifique. Pluton se trouve à environ 40 unités astronomiques, c'est-à-dire environ 6000 millions de kilomètres. Ça veut dire 5 heures-lumière. Hein, 6000 millions de kilomètres, c'est 5 heures-lumière.
Plus loin qu'Angers et Paris.
Ah, c'est un petit peu plus loin. Si on prend notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, elle s'est formée à partir d'un grand nuage de gaz, il y a environ 12 milliards d'années, elle mesure à peu près 100 000 années-lumière. Donc, entre Pluton et nous, 5 heures lumière, pour la galaxie, en gros, on va dire 100 000 années-lumière. Elle contient entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Alors évidemment, ça laisse quand même beaucoup de possibilités.
Mm-hmm.
On rappelle qu'une année-lumière équivaut à 9500 milliards de kilomètres. Je simplifie hein, pour tous ceux qui veulent à tout prix en savoir plus. Vous consultez le dictionnaire. Voilà. L'étoile la plus proche est en fait un système binaire qu'on appelle Alpha et Proxima du Centaure et qui est situé à 4,3 années-lumière.
Donc il existe des centaines de milliards de galaxies.
Alors c'est vrai, il y a des centaines de milliards de galaxies, donc pourquoi pas de la vie. Mais prenons par exemple les galaxies qui sont à côté de la Voie lactée. On appelle ça un groupe local. La Pégase, par exemple, est une des galaxies du groupe local de la Voie lactée, comme la Voie lactée, c'est une autre galaxie, et elle est située à 5 millions d'années-lumière. Alors, pour vous donner une petite idée des chiffres, on va prendre par exemple la sonde Helios, qui détient à ce jour le record de vitesse absolue. Elle a volé à 253 000 km/h. Bon, là encore, je simplifie le chiffre. Wow. Mais c'est extraordinaire de voler à cette vitesse-là. 253 000 km/h, c'est quelque chose qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir atteindre avec votre deux chevaux, hein, il faut être clair. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans l'espace, il n'y a pas de frottement. On peut atteindre ça pour le moment, sauf qu'il faut évidemment des tonnes et des tonnes de carburant pour aller loin. Mais en plus, il faut bien comprendre que 253 000 km/h, ce n'est que 0,02% de la vitesse de la lumière. Ce qui veut dire que la sonde Helios, pour atteindre Proxima du Centaure, il lui faudrait 18 000 ans.
Ah bah on attend de mourir plusieurs fois.
Parce que Proxima du Centaure n'est qu'à 4 années-lumière. Mais pour atteindre Pégase, il va lui falloir 14 milliards d'années.
Oula.
Bon, et ça, ce sont le fameux groupe local. Alors certes, il y a des centaines...
C'est les voisins, quoi.
Voilà, c'est nos voisins. Certes, il y a énormément d'autres étoiles. Il faut bien comprendre qu'on est en effet dans des milliards, des 100 ou 200 milliards d'étoiles. Mais attention, la grande majorité de ces étoiles ne comportent pas de système planétaire. En outre, une grande partie de ces étoiles sont des naines blanches ou sont des étoiles différentes, pas toujours propices à la forme de vie. Mmh. En gros, il faut bien comprendre aussi que pour trouver des exoplanètes habitables, ou on va dire habité pour être gentil, les scientifiques doivent se concentrer sur des systèmes planétaires qui sont autour d'étoiles plutôt de type M. Pourquoi ? Parce que c'est les étoiles de type M, c'est les naines rouges, hein, on appelle ça comme ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, elles sont très nombreuses, qu'elles sont en général relativement proches du Soleil. Mmh. 75% des étoiles qui sont proches du Soleil sont des étoiles de ce type. Et surtout parce qu'avec nos technologies actuellement, on est capable de plus voir ce qu'il y a autour d'elles. S'il y a moins de lumière, on peut davantage observer les exoplanètes habitables.
Ouais.
Voilà. Alors dans ce contexte, trouver des planètes semblables à la Terre, des exotères en quelque sorte, eh bien c'est augmenté. Alors il faut bien voir qu'il y a quand même eu des progrès scientifiques. Il y a une superbe publication en 2008 par exemple qui a essayé de nous calculer combien il y avait d'étoiles qui pouvaient disposer de terres habitées et puis combien il y avait d'étoiles tout simplement dans la Voie lactée. Et donc si on fait ces calculs de ce genre, on est en droit de supposer que franchement des choses statistiquement pourraient exister. Mais attention, pour le moment, toutes les étoiles qu'on a trouvées et toutes les exoplanètes qu'on a trouvées sont différentes du Soleil ou différentes de la Terre. C'est-à-dire qu'on a une tellement grande diversité dans l'univers que pour le moment, on n'est pas en état d'avoir trouvé deux choses semblables, en dépit des statistiques. Ah. Ceci dit, évidemment, si on trouve une exoplanète qui est entourée d'une atmosphère assez riche en oxygène, on va dire entre, allez, on va être très très large, 10%, allez, 10-20%, je ne sais pas si la vie est possible avec un si faible taux, mais sait-on jamais. Et que cette atmosphère riche en oxygène pourrait laisser passer soit des processus chimiques, soit qu'il y aurait de l'eau, bien sûr, et ben là, on pourrait penser qu'il y a une forme de vie. Alors, c'est pas inintéressant, parce qu'on en a trouvé une qui ressemble à ça. C'est notamment autour d'une naine rouge qu'on appelle Gliese 876. Alors, Gliese 876, c'est une planète intéressante parce qu'elle est très proche. Elle n'est qu'à 15 années-lumière.
Ah.
15 années-lumière de nous, ça veut dire qu'il faut quand même 250 000 ans de voyage.
Hein. Ah, quand même.
Oui, c'est quand même. Quand on se rappelle que les premiers humains datent d'environ 100 000 ans,
ouais.
Ça a refroidi un peu l'encore. Mais enfin, cette planète, elle est proche, elle est à côté. Elle est près de la constellation du Verseau. Et elle comporte, cette naine rouge, elle est à côté. Et elle comporte quatre planètes, dont une de ces quatre planètes, Gliese 876D, est relativement intéressante. Alors, elle colle pas totalement, mais on a découvert qu'il existait de l'oxygène en même temps qu'il y a de l'eau. Alors attention, ce sont des molécules d'eau, des molécules de dioxyde de carbone, dans le spectre d'une exoplanète de type, on va dire terrestre, probablement une planète tellurique.
Alors l'oxygène pourrait être une preuve de vie alors ?
Voilà, on pourrait penser ça, sauf que ça pourrait constituer une biosignature, comme pas du tout. En fait, sur cette planète-là, eh ben non, il n'y a pas de vie. Ce n'est pas une biosignature. En fait, on a découvert que ce n'était pas du tout ça, que c'était un produit tout à fait normal de l'activité de la planète. C'est une situation qui nous met en évidence la difficulté, la complexité de trouver des indices de vie. Alors évidemment, on peut s'interroger, même si on avait découvert des indices de vie, de toute façon, pour aller les voir, avec 250 000 ans de voyage, mince, il est peu probable que l'humanité serait encore là. 250 000 ans, c'est relativement court à l'échelle de l'évolution, mais ça reste quand même très très long pour une vie d'homme. On n'a absolument aucun moyen pour l'instant d'y envoyer même ne serait-ce qu'une sonde. Hein, je vous rappelle que les sondes qui ont été envoyées dans les années 70 dans l'espace viennent juste de passer du côté de Saturne. Elles viennent juste de sortir du système solaire à proximité de Saturne. Et on les a envoyées dans les années 70. Donc vous voyez un peu le temps qu'il faudrait pour arriver à quelque chose comme ça là et dans quel état serait cette sonde. En plus, cette oxydation nous montre que cet oxygène n'est pas du tout l'indication d'une activité biologique. Gliese 876D s'apparenterait plutôt à la Terre telle qu'elle était il y a 2 milliards d'années, notamment au moment où il y a eu la grande oxydation sur la planète Terre. Mais même là, c'est encore des taux très très faibles. Alors, il y a eu d'autres projets pour essayer de découvrir si il était éventuellement possible de découvrir des traces de vie. Il y a eu notamment le projet spatial baptisé Darwin. C'était un projet spatial de l'Agence européenne qui devait partir en 2020 pour envoyer, pour étudier des exoplanètes.
Il devait partir, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir finalement.
Non, le projet a été arrêté en 2007 en fait. ce projet qui devait découvrir des traces de vie primitives était un ensemble de 5 télescopes qui étaient d'un type nouveau et qu'on aurait placé dans l'espace. Le problème c'est que ça coûte trop cher, que l'étude du coup a été fusionnée avec une étude américaine qui va être un peu plus retardée. Enfin de toute façon tout ça c'est très cher. Et tout ça je vous rappelle, sans qu'on ait toujours trouvé le moindre d'embryon d'un début d'une bactérie. Nous en sommes toujours pour l'instant à chercher même pas des petites coquilles de silice. Bref, la vie est très très loin de nous.
Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und der Auspuff Rohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schob die Straße runter, fällt mir bald bekannter ein. Drum fällt mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und flieg mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt und ich tu einfach weiter fennen.
C'était Nina Hagen, c'était pas moi, non, je ne peux pas faire ça, non. C'est une grande performance de Nina Hagen. Et le titre s'appelle Nature...
Nature Traîne.
Nature Traîne.
Voilà. Alors, ben, on a bien compris que nous ne pouvions pas être très très optimistes avec l'exobiologie, la recherche des êtres extraterrestres, d'êtres vivants. Hein, la vie n'existe pas, ce qui existe c'est des êtres vivants. Eh bien, c'est avéré pour l'instant un gros flop. On a eu beau chercher, on n'a rien trouvé. Tout est vide, tout paraît de plus en plus vide. Ça signifie pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais ça signifie que même si on trouve, la probabilité qu'on en fasse quelque chose est relativement faible. Alors évidemment, face au pessimisme de la science, face au pessimisme d'exobiologie, eh bien, il y a eu des alternatives à la démarche scientifique, et notamment il y a l'ufologie, qui consiste à mesurer des témoignages d'atterrissage d'engins extraterrestres.
Et donc l'ufologie, c'est l'examen des soucoupes volantes.
Voilà. Alors il faut évidemment pour cela supposer qu'il y a des êtres intelligents, qui aient fait toute l'évolution biologique, qui soient capables de se sortir de leur petite coquille de silice, etc., etc., et qui soient aptes à parcourir des millions d'années-lumière juste pour nous dire un mot. Voilà. D'autant qu'en général, dès qu'ils arrivent, ils s'en vont après derrière. Ils viennent dire bonjour, ils s'en vont. On ne sait pas trop pourquoi, mais enfin bon. Cette mythologie qui était quand même très présente dans les années 50, hein, ça commence un petit peu maintenant à montrer ses limites, elle oscille évidemment entre l'ivrognerie et l'illusion, c'est évidemment de la science-fiction, mais au mauvais sens du terme. Alors elle ne peut exister que parce qu'il est présumé qu'il faut faire fi de toute évolution biologique, de toutes les connaissances scientifiques. C'est-à-dire que l'ufologie est une négation a priori de la biologie, voire même de la science. Plutôt qu'un examen d'événements qui se seraient déroulés, en fait, il faut voir là qu'on parle de témoignages, donc de gens qui auraient vu quelque chose comme si c'était un effet vrai. Alors, je pense que tous les gens qui sont en prison, qui ont été condamnés un jour sur l'effet de témoignage, savent à quel point la fragilité du témoignage est quelque chose d'importance. Autant dire qu'il est bien peu probable que l'ufologie serve un jour à quelque chose, et surtout pas à répondre à la question « y a-t-il des êtres vivants ?» Alors pour cela, je vais quand même donner un petit exemple rigolo qui nous vient d'un chercheur en ufologie. Alors c'est pas moi qui ai inventé son nom, il s'appelle Jean-Charles Fumou. C'est assez rigolo, mais c'est comme ça. Et donc notre jeune chercheur a découvert la preuve absolue de l'existence des extraterrestres.
Ah quand même.
Ah oui, quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. Alors comment est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a fait une étude scientifique qui a consisté en gros à chercher des points, des lieux d'atterrissage de soucoupes volantes. Alors, il en a trouvé 76, c'est déjà pas mal hein, quand même, quand on connaît la rareté de la chose. Il a trouvé 76 points d'atterrissage de soucoupes volantes. Jusqu'ici, vous allez me dire, la preuve, elle n'est pas tout à fait encore faite.
Ouais.
Mais c'est un chercheur, ce monsieur, c'est un chercheur. Alors, il a pris des mesures sur la carte.
Un grand scientifique.
Il a reporté chacun des points d'atterrissage et il a découvert que les atterrissages faisaient des triangles isocèles. Ça veut dire que pour ça, il faut regrouper par 3 les points, et que quand on les regroupe par 3, on fabrique un triangle, et que ce triangle, il serait isocèle.
Oui.
Alors c'est vraiment la preuve irréfutable que ce sont des extraterrestres.
Que les extraterrestres sont des mathématiciens aussi.
Venir sur Terre et s'arranger pour faire des atterrissages en triangle isocèle, bah, ça peut quand même que être un esprit élevé. En effet, hein, faire des maths, c'est quand même très compliqué. Alors Fumou va commencer par relever les 76 points, il va relever ça par ordre chronologique, et ça marche pas. Donc il essaye de relever ça avec un autre ordre. Ça donne toujours pas des triangles isocèles. C'est pas grave, on va continuer. Hein. On refute pas l'hypothèse, on continue, on travaille, on cherche. Qu'est-ce qu'il en déduit ? Il en déduit quand même que les extraterrestres sont rusés. Parce qu'ils dissimulent leur plan de vol. Au lieu de faire des triangles isocèles selon l'ordre de leur arrivée...
Ils ont remarqué qu'on avait vu ça, voilà. Donc ils font autre chose.
Ils font des triangles isocèles, mais ils les cachent.
Oui.
En plus, on note quand même que certains de ces triangles isocèles ne sont pas isocèles. Pourquoi ? Là, on pourrait penser que quand même, les extraterrestres, là, ça colle pas bien.
Parce qu'ils sont pas si bons en maths, finalement.
Mais non, ils sont très bons en maths. Mais ils le font exprès de pas toujours faire des triangles isocèles pour pas qu'on devine qu'ils vont faire des triangles isocèles. C'est ça la conclusion de notre chercheur. Alors, c'est quand même tout à fait beau. Et évidemment, il y a quand même d'autres personnes, notamment un mathématicien qui s'est amusé à refaire le calcul de notre ami Fumou. Fumou, dont non, je n'invente pas le nom. Et qui ont découvert qu'en fait, c'était une grosse erreur.
Il est fameux, ce Fumou.
Une grosse erreur mathématique. mathématiques. Bref, Fumu avait découvert des extraterrestres, mais non, les chercheurs mathématiciens nous disent que ça ne marche pas. En tout cas, si Monsieur Fumu veut parler de chercheurs, veut parler de ses recherches, eh bien, qu'il aille sur notre antenne ici, on ne lui fera pas forcément de très grande publicité, car nous ne sommes pas tout à fait proches de concevoir la vie de nos envahisseurs.
Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouvera.
Eh oui, les envahisseurs sont parmi nous.
Bref, on ne trouve rien, et si on trouvait quelque chose, de toute façon, ce serait trop loin, trop tard.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que les éléments lourds, comme tout ce qui est plus massif que le lithium, ont mis beaucoup de temps à apparaître dans l'univers. Et le développement de la vie a besoin de ces métaux lourds. Donc ça a évidemment pu limiter le temps de l'apparition d'une possible vie extraterrestre. En plus, la recherche de formes de vie extraterrestre reste quand même enthousiasmante. Il faut bien penser que ça nous permet de comprendre quelles sont les limites du vivant. Ceci dit, cet intérêt scientifique est quand même très étroit au vu des dépenses faites. Si on comprend bien, ce qu'on cherche, c'est à savoir si le vivant, il a des possibilités plus extrêmes que les extrêmes qu'on connaît déjà. Bon, de toute manière, les distances dans l'espace sont tellement considérables que nos chances de découvrir une exobiologie sont non seulement minimes, mais en plus probablement vouées à l'échec. Alors croiser un être qui serait semblable à nous, c'est-à-dire qui serait un vertébré, qui aurait un cerveau, voire même un arthropode, mais avec un cerveau quand même, qui serait capable de fabriquer des choses et qui aurait décidé lui aussi de fabriquer le capitalisme, avouez quand même que ça serait très 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 étonnant.
Oh non, pas encore.
Non, cette quête, elle est quand même tout à fait absurde et au vu des moyens employés, on voit à quel point c'est de l'anthropocentrisme qui fait recette. La plupart des chercheurs qui tournent autour de ces épisodes-là ne font que de l'anthropocentrisme.
Bref, comme je disais, donc on trouve rien et on peut pas parce que de toute façon, ce serait trop tard ou trop loin.
Donc ça ne sert pas à grand-chose de chercher dans les étoiles puisque en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des êtres vivants qui fourmillent autour de nous. Et si on veut chercher des êtres vivants, eh bien il suffit de se pencher. Même dans l'endroit le pire, l'endroit le plus sec, le plus terrible qui existe sur la planète Terre, les draps de votre lit par exemple, eh bien il peut y avoir des êtres vivants. Dites-vous bien ça. Et donc c'est à côté de nous. Or, on ne connaît presque rien de la biodiversité terrestre. Alors les limites des êtres vivants importent assez peu à notre connaissance quand c'est notre planète qu'il faudrait mieux connaître. Alors, il y a aussi des espoirs complètement fous, comme par exemple ceux d'aller habiter ailleurs. Hein. On aurait usé notre planète et paf, on irait habiter ailleurs tranquillement.
Ou en user d'autres.
Voilà, pour user Mars, on refabriquait des terres, et donc on voyagerait, comme ça on ferait un joli Star Trek. Bon, ce sont évidemment ce que Marx appelait des Robinsonades. Et ces Robinsonades, il faut les laisser aux crédules qui seraient disposés à vivre par moins 70 sans soleil, ni nature, et toujours, bien sûr, en fabriquant une société avec des marchands, de la police, des militaires et des États. Or, nous n'en voulons plus de ce monde-là, c'est donc pas la peine d'espérer qu'il nous vienne de l'espace. Nous pouvons transformer notre monde ici et maintenant. En conséquence de quoi, il n'est pas nécessaire d'aller chercher sur Vénus ou sur Mars ou sur Titan pour savoir que l'anarchie est notre seule et unique solution sur cette bonne vieille Terre.
Vieille terre, chante.
Michel Bernard, Vieille Terre.
Alors nous arrivons maintenant petit à petit à notre conclusion. Qu'est-ce que la vie sur Mars, ailleurs, encore plus loin ? D'abord des bactéries en surface, puis dans la glace, aujourd'hui sans méthane, de nouveaux biotopes qui doivent être imaginés dans l'urgence. Désormais les martiens sont donc enfouis à très grande profondeur, là où on ne peut même pas les repérer. Ou alors ils n'émettent pas de signaux détectables, voire les deux. Ce qui nous promet encore quelques siècles de récompenses supplémentaires et de recherches où on va nous dire que ça y est, on a trouvé de l'eau, on a trouvé de l'eau et que peut-être il y aura de la vie. La formation du diamant suppose des conditions complexes et rares. Le graphite pur, sous l'effet de contraintes extraordinaires, prend la forme de cristaux. Le vivant s'avère aussi le produit de conditions singulières, rares, complexes, qui ont prévalu à son apparition. En quelque sorte, on peut dire que le vivant est le diamant de l'inerte. Mais il n'y a pas de miracle de la vie. Alors, il ne faut pas nous reprocher notre matérialisme. Le vivant n'est qu'un genre particulier d'inerte, un genre insolite, fondamentalement divergent. Mais le vivant résulte d'une organisation millénaire des formes de l'inerte. Le vivant n'est qu'un genre de ce qui est mort et un genre fort rare, disait déjà Nietzsche. Bien sûr, on peut continuer à regarder dans les étoiles pour savoir si le vivant est une exception terrestre ou un cas beaucoup plus répandu. Mais il faut à cette observation une coïncidence du temps. Car en se développant, la vie a fabriqué une histoire fabuleuse, extraordinaire, et une histoire finalement assez courte, beaucoup plus courte que celle de l'inerte. Tout de même, il a fallu 3 milliards d'années pour que le vivant se révèle. Alors, le corollaire du fait que le vivant dérive de l'inerte, c'est qu'il peut exister ailleurs. On est bien d'accord. Il n'y a donc pas de raison d'autre que la contingence pour supposer que notre planète soit la seule à abriter la vie dans l'univers. On comprend en conséquence de quoi l'enthousiasme irréel des astrophysiciens qui cherchent malicieusement la vie derrière les astres. Mais l'humain, qui a pourtant même pas 1 million d'années d'histoire, alors l'invisibilité du vivant, ça peut résulter d'un décalage temporel dans l'immensité sidérale. Mais ça le rend définitivement inaccessible. Et rien n'empêche non plus que la vie s'apparente à un phénomène unique et fortuit. Dans tous les cas, c'est inutile de chercher à fuir notre monde épuisé pour en fabriquer un autre artificiel qui serait toujours entre les mains des marchands et de leur police. La vie est riche et diversifiée sur la Terre. Les êtres vivants sont à côté de nous, embarqués dans une histoire évolutive millénaire et fascinante. Et nous pouvons changer la vie sur Terre, ici et maintenant,
oui,
dans une perspective libertaire d'émancipation des peuples. Merci de nous avoir entendus. Au revoir Chris.
Au revoir Thierry. Alors, auditeurs et auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou sur l'email de l'émission qui s'appelle Science Libre, Sens Libre au singulier, @gmx.fr. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qui la parcourent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Christelle, Siona et Monique à Paris, et la musique d'introduction est de Hicham
Chaïdi.
Et nous allons conclure sur Les enfants de Cayenne, qui est Parabellum.
Une petite dernière pour la route. Et bonsoir.
propriétaire, je check mon chèque en bois. Pour moi, propriétaire, c'est un concept bourgeois. Elle vient me voir pour une salve de reproches qui sont censés m'émouvoir sensiblement d'un peu la cloche. On est au long de proche de l'expression libre-moi. Je dis que chercher du boulot, c'est un concept bourgeois. Elle voudrait me voir de la fleur sur le front, assume mes devoirs sans aucune concession. Je vais la décevoir, je ne participe pas. Protéger son territoire, c'est un concept bourgeois. Elle m'envoie dans la rue une fleur en boutonnière.
Titi de Paris, je suis de Paris ici quand je t'aurais dit que je suis de Paris, t'auras compris. Dans mon hameau, de la porte maillot passe le métro qui parle argot au Parigo. Dans mes faubourgs, il y a tant d'amour qu'en faire le tour, ça prend des jours et puis des jours. Titi de Paris, je suis de Paris ici quand je t'aurais dit que je suis. Titi de Paris. Le jour, la nuit, je fais des paris avec Paris. Tu m'as compris. Dans mon quartier, des trois quartiers, je fais pas de quartier, je reste en pour ma moitié. Dans ma banlieue, y a pas de milieu, quand on est deux, on est heureux ou malheureux. Titi de Paris. Quand j'ai de l'ennui, je file dans mes ouïes, tu m'as compris. Ou de Paris. Titi de Paname, honneur aux dames, quand on me réclame au mélodrame, j'ai mon programme. Dans mon sixième, même en carême, il y a le café crème et puis tout de même, les trucs qu'on aime. Dans mes façons, y a pas de question, c'est oui ou non, et quand c'est non, c'est sans façon. Titi de Paris, mon mou titi, c'est comme je te le dis, c'était de Paris, tu m'as.